Europa Voice numéro 74, et comme d'habitude, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Et numéro intéressant aujourd'hui, parce qu'on va se concentrer sur le vaccin contre le coronavirus, et surtout en Australie. On va débuter en Australie, et The Eagle has landed. C'est comme ça que le gouvernement donc, a lancé cette campagne de vaccination, avec cette phrase. Donc, on va décrypter tout ça. Je voudrais commencer par savoir... Question simple, on en est où, Nathanaël?
Alors effectivement, Christophe, the eagle has landed, l'aigle a atterri, ce sont les mots en fait qu'a prononcé le ministre de la Santé, le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, ce lundi à Canberra lors d'une conférence de presse, tout simplement pour signifier que les vaccins venus d'Europe ont atterri à Sydney, et donc que la campagne de vaccination en Australie va pouvoir commencer la semaine prochaine. Première catégorie de la population qui va être vaccinée, Christophe, ce sont les populations dites à risque. Et il va y avoir environ 80 000 personnes qui vont être vaccinées dans un premier temps en Australie. Dans ces 80 000 personnes, vous avez d'abord 50 000 personnes qui sont des travailleurs qui œuvrent, qui travaillent dans les maisons de retraite, des personnels de santé, mais aussi du personnel qui travaille dans les hôtels de quarantaine, hôtels de quarantaine qui ont fait énormément polémique ces derniers jours. Et puis, vous avez 30 000 personnes, des patients plutôt cette fois âgés dans les maisons de retraite qui vont être vaccinés. Donc voilà, on démarre vraiment en Australie la campagne de vaccination la semaine prochaine après que l'aigle ait atterri en ce début de semaine à Sydney.
Alors parlons un petit peu de cette campagne justement en détail. Si on regarde un peu les informations à travers la planète, un peu partout dans le monde moderne, la campagne de vaccination a débuté. Mais par contre, en Australie, et d'ailleurs en Nouvelle-Zélande également, c'est pas encore ça. Ça commence dans les jours qui viennent. Je serais tenté de dire pourquoi. Pourquoi ça?
Alors, il y a deux raisons, Christophe, principales à ça. D'abord, pour le rappeler à nos auditeurs, c'est vrai, en Europe, la campagne de vaccination a commencé en 2020. En fait, le 27 décembre 2020, on a commencé à vacciner les populations à risque en Europe. Alors, pourquoi est-ce qu'en Australie, on a cette campagne qui démarre tard? Alors, la première raison, Christophe, finalement, c'est un peu la rançon de la gloire. C'est-à-dire qu'en Australie, on a réussi, comme en Nouvelle-Zélande d'ailleurs, à contenir la propagation du virus. On est dans un... On vise à une stratégie zéro cas Covid. On y reviendra dans une deuxième partie de cette émission. Donc, si vous voulez, on est aussi, en termes de calendrier, moins pressé de vacciner parce qu'on a un virus qui circule beaucoup moins ou d'ailleurs plus du tout dans certaines parties de l'Australie. Ça, c'est la première raison, finalement. C'est le revers de la médaille, la rançon de la gloire du succès de la stratégie zéro Covid qui a été mise en place en Australie. Et puis, la deuxième raison, Christophe, elle est plus... logistique, et elle a prêté à polémique ces derniers jours, c'est qu'en fait, l'Australie, pour l'instant, il y a deux vaccins qui vont être distribués en Australie. Il y a le Pfizer, et alors, en ce qui concerne le Pfizer, il fallait attendre que ce vaccin vienne d'Europe, que les doses viennent d'Europe, et il y a eu quelques imbroglios, parce que du côté de l'Europe, on a voulu d'abord prioriser, évidemment, les pays de l'Union européenne, donc l'Australie n'était pas prioritaire pour recevoir ces vaccins Pfizer. Et puis, tout simplement, toujours pour ces raisons logistiques, quand vous êtes un laboratoire, vous répondez aussi aux plus offrants. Donc, quand vous avez une entité politique avec près de 560 millions de personnes, vous pesez beaucoup plus dans le jeu de la négociation que quand vous êtes une île avec un peu plus de 25 millions de personnes. Et puis, l'autre raison, Christophe, c'est qu'on a effectivement un autre vaccin, le AstraZeneca, qui est produit localement dans le Victoria, mais qui a été longtemps en attente d'autorisation d'utilisation en Australie. Donc, ce sont ces deux raisons. C'est à la fois, finalement, parce qu'il n'y avait pas le feu au lac, j'allais dire, en janvier en Australie, de vacciner, et puis, pour ces raisons, tout simplement, logistiques et d'acheminement des vaccins depuis l'Europe jusqu'au territoire australien.
Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer un peu de cette campagne de vaccination à l'australienne? On a encore une fois beaucoup parlé des méthodes employées en Europe, aux États-Unis, en Israël. Est-ce qu'on peut, en Australie, faire un petit peu un melting pot de tout ça pour faire une méthode complète, globale à l'australienne?
Alors, on va revenir sur la phrase utilisée par le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, l'aigle atterri. Alors, au-delà de la référence à la Seconde Guerre mondiale et un film que peut-être certains de nos auditeurs connaissent, il faut dire que l'Australie ne s'est pas cachée que le déploiement logistique de cette campagne de vaccination était finalement le plus grand challenge logistique depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, c'est-à-dire qu'en Australie, on sait qu'il va y avoir un challenge à déployer ce vaccin sur l'ensemble du territoire. Après, qu'est-ce que les Australiens ont appris ou pas appris finalement des autres pays en termes de campagne de vaccination? Alors d'abord, comme dans les autres pays, on va raisonner par catégorie de population. On l'a dit, hein, d'abord les premières doses, ça va être pour les personnels de santé, personnels à risque et les patients en maison de retraite. Et puis après, on va descendre, on va avoir les personnels de santé qui ne sont pas directement confrontés au Covid, puis après la population par âge, et puis enfin les jeunes en dernier. En fait, ce qui va se passer en Australie, ça va être très dépendant de la livraison de vaccins. On l'a dit, hein, le fait que les vaccins ne viennent que maintenant, c'est aussi parce qu'il y a cette question d'acheminement du vaccin et de la commande de vaccins pour les 26 millions d'habitants australiens. Donc vraiment maintenant, ce qui va se passer, j'allais dire, en Australie, on a moins peur d'un ratage logistique que d'une logistique qui serait prête, mais un vaccin qui ne serait pas encore disponible. Et donc c'est vraiment ça, je pourrais dire, l'enjeu pour l'Australie, c'est de pouvoir, face à la logistique qui sera certainement mise en place en temps et en heure, être capable d'acheminer et de ne pas avoir de shortage, de manque en termes de nombre de vaccins, de nombre de doses à inoculer. C'est vraiment ça le challenge qui va se poser à l'Australie. Et puis, un deuxième challenge peut-être spécifique aussi à Lille, c'est de voir comment continuer à gérer cette stratégie zéro Covid, et c'est ce qu'on a appelé lockdown, c'est lockdown, excusez-moi Christophe, très court, de quelques jours. Comment est-ce qu'on va continuer à pouvoir avoir ces lockdowns très rapides, très sévères, très durs, et en même temps la campagne de vaccination qui se déploie? Est-ce que la population sera prête, alors qu'elle va être vaccinée, à encore endurer finalement de manière aléatoire, au dernier moment, un confinement de 3 jours, de 5 jours, de plus si besoin? Donc voilà, je crois que c'est vraiment ça les deux challenges pour l'Australie maintenant que la campagne de vaccination démarre.
Est-ce qu'on sait si cette politique de vaccination a pris du retard? Est-ce qu'on sait où on en est? Et est-ce qu'on sait que, en gros, le calendrier de cette politique de vaccination, est-ce qu'on est un petit peu au courant sur l'échelle de cette vaccination, de cette mise en vaccination de la population en Australie?
Alors, c'est deux questions, Christophe, qui me paraissent très différentes dans leur réponse et dans leur approche. On sait que dans le calendrier, pour l'instant, le politique en Australie affirme, hein, au niveau fédéral, notamment, qu'il n'y aura pas de retard. Que voilà, on aura les doses en temps et en heure, que à partir du début du mois de mars, on aura 1 million de doses par semaine. Et donc, s'il n'y a pas de retard, il semblerait que la campagne de vaccination puisse se terminer aux environs du mois d'octobre. Ça, c'est la première partie de la réponse à votre question. Mais après, il est évident, et on le comprend de plus en plus quand on voit maintenant la manière avec laquelle la crise et la gestion de l'épidémie est gérée, ça ne va pas avoir un effet immédiat sur l'ouverture de l'Australie au reste du monde. Il est très clair encore qu'au moins pour 2021, l'Australie restera probablement fermée au reste du monde, que finalement les entrées sur le territoire australien se feront au compte-gouttes, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on l'a vu, hein, jusqu'à là, ce qui a fait défaut pour l'instant, Christophe, c'est le problème dans la gestion des voyageurs qui revenaient de l'étranger et qui restaient, qui séjournaient au sein des hôtels de quarantaine, pas tellement parce qu'eux-mêmes étaient porteurs d'un virus, mais parce que des personnels déployés pour surveiller ces voyageurs en quarantaine, après, forcément, ramener plus facilement le virus au sein de leur communauté. Et c'est pour ça qu'en fait, à mon avis, on va encore attendre quelques mois, voire années, avant de voir l'Australie vraiment se réouvrir au reste du monde. Alors, il y a des avancées, hein, de ce point de vue-là aussi, c'est qu'on pense, il y a eu des annonces que des hôtels spécifiques aux quarantaines vont être construits dans les prochains mois. Tout ça, tout simplement pour aussi répondre à ce qu'on appelle le cap, c'est-à-dire au nombre maximum de personnes de l'étranger qui peuvent entrer sur le territoire australien, qui, ce cap, va évidemment augmenter, hein, puisque plus on vaccine quand même, plus on va permettre aux personnes venues de l'extérieur, s'ils sont vaccinés, hein, c'est tout le débat autour du passeport vaccinal, mais de venir en Australie, et donc pour pouvoir absorber et gérer au mieux et ne plus subir ces crises dues aux hôtels de quarantaine, construire des endroits spécifiques où séjourneraient les voyageurs et le personnel. Donc, vous voyez, deux choses différentes. Une population qui serait vaccinée d'ici le mois d'octobre, fin de l'année, mais une réouverture de l'Australie au reste du monde, vraisemblablement pas avant 2022.
Ouais, c'est ce qui fait peur un petit peu à tout le monde. Allez, on va parler de la stratégie maintenant. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est ces deux pays qui font partie des pays qui ont pris une ligne différente de la ligne européenne ou de la ligne américaine par rapport à la stratégie. On parle de la stratégie zéro Covid hein, pour chez nous en Australie. Et cette stratégie de zéro Covid, c'est une stratégie qui fait un peu pâlir en France et en Europe. On se pose réellement la question ces jours-ci, est-ce que la France, est-ce que l'Europe peut avoir une politique ou une stratégie de zéro Covid à court ou moyen terme ?
C'est une question extrêmement intéressante, Christophe. La question sous-jacente, c'est est-ce que la France, notamment, est-ce qu'elle peut viser, est-ce qu'elle peut organiser une stratégie zéro Covid ? Alors, zéro Covid, de toute façon, ce n'est pas le mot exact, hein, parce qu'il y a toujours des cas de Covid, hein, on le voit ici en Australie qui circulent, mais est-ce que, en tout cas, la France peut gérer la crise du Covid-19 comme le fait l'Australie ou comme le fait la Nouvelle-Zélande ? Alors, c'est une question qui est intéressante parce que rien que d'un point de vue, j'allais presque dire philosophique ou sémantique, quand on parle de la stratégie zéro Covid en Europe, et notamment en France, c'est parce qu'on oppose le vivre avec le Covid. On dit voilà, en France, finalement, on a depuis le début essayé de vivre avec le coronavirus, de vivre avec le Covid-19, et puis on a vu que bah, ça ne marchait pas, qu'il fallait le combattre, et qu'on devrait s'orienter vers une stratégie où on ne vit pas avec le coronavirus, mais où on l'éradique totalement. Si vous demandez à un Australien est-ce qu'il a l'impression de ne pas vivre avec le Covid-19, et un habitant de Melbourne, mais même un habitant de n'importe quel état, il va vous dire non, il vit avec le Covid. Pas parce qu'il y a des cas de Covid, mais parce qu'il y a toujours des restrictions qui empêchent le Covid de réapparaître ou de circuler plus largement. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, Christophe, c'est qu'au-delà du débat purement épidémiologique, il y a en fait aussi cette différence d'interprétation où on a l'impression, ou en tout cas, si on regarde du point de vue de la France, on a l'impression que la France considère que l'Australie ne vit pas avec le Covid. Si vous demandez aux habitants de Melbourne, vous le premier, est-ce que vous vivez ou pas avec le Covid, tout le monde va dire, bah oui, évidemment, on ne vit pas avec le virus, puisqu'il ne circule pas ou presque plus. Par contre, on vit avec toutes les restrictions qui font que bah, on a appris à vivre avec des restrictions liées au Covid. Et je crois que ça, c'est un point qui est assez intéressant de souligner, c'est qu'il ne faut pas non plus avoir de fausses illusions de ce que vivre avec le virus veut ou ne veut pas dire. Donc ça, c'est le premier point, parce que ce débat, il a émergé il y a quelques jours. Il y a eu beaucoup d'articles à la fois d'économistes, de médecins, de philosophes qui se sont réunis pour dire qu'ils veulent cette stratégie zéro Covid, cette stratégie d'éradication du virus. Donc déjà, posons un peu les bases de ce que ça veut réellement dire et comment c'est perçu en France versus comment c'est perçu, par exemple, en Australie. Ensuite, Christophe, sur cette question du zéro Covid, on va la définir aussi. Ça veut dire quoi, zéro Covid ? Ça veut dire on vise à la disparition totale du virus, ou en tout cas, on ne veut pas le laisser circuler ou à des taux très faibles. Alors, il y a plusieurs avantages à ça, Christophe. D'abord, évidemment, il y a un nombre très faible de morts, hein, puisque vous prenez les mesures très en amont. Et puis aussi, vous avez pas de saturation des hôpitaux, ça c'est un point qui est très important, c'est que vous n'avez jamais votre système hospitalier sous tension. Et puis, troisième avantage, pourquoi on parle beaucoup de cette stratégie zéro Covid, c'est que vous avez une vie quasiment normale, et j'insiste sur ce mot quasiment normal, et c'est là où il y a cette nuance entre qu'est-ce que ça veut dire vivre avec le coronavirus, même s'il ne circule pas sur le territoire.
Alors, cette stratégie zéro Covid en Europe, hein, on l'a vu hein, ici, on va sûrement vivre avec des confinements très courts, de la remise en place des masques, et on va avoir les masques pendant quelques jours, on va retirer les masques, confinement pendant quelques jours, retirer le confinement pendant plusieurs semaines. Est-ce que ça, c'est acceptable en Europe ? Et est-ce que tout ça, finalement, ça ne met pas quand même un peu de pression aussi sur la population en Australie ? Est-ce que globalement, on ne se dit pas globalement, on en a marre un peu de tout ça. Et est-ce que tout ça serait acceptable, en fait, finalement, en Europe ?
Alors, je crois qu'il y a aussi des choses qui sont très différentes et qui expliquent qu'on essaie de se tourner vers une stratégie zéro Covid. C'est d'abord que la stratégie zéro Covid, finalement, Alors qu'on tape, on tape très fort et des fois très longtemps, hein. Alors, quand je dis qu'on tape très fort, c'est qu'on fait des confinements express, très durs. Encore récemment, 5 jours à Melbourne, il y a quelques semaines, 5 jours à Perth, à Brisbane, dans le Queensland, début janvier. On tape dès que ça apparaît. Et puis aussi, l'autre élément, c'est que, et ça on l'a vu à Melbourne l'année dernière, c'est que pour éviter justement cette saturation, ce nombre important de morts, on n'hésite pas à taper très fort très tôt et après à lever extrêmement doucement les restrictions. Hein. On était passé de stage 4, 3, mais ça a duré quasiment 7 mois. Ça, je crois que c'est quelque chose aussi qui est étudié en Europe parce que y a quand même cette lassitude en Europe et ce ras-le-bol, hein, excusez-moi l'expression, mais ce ras-le-bol d'avoir ces va-et-vient de reconfinement, déconfinement. À chaque fois qu'il y a une vague. Finalement, on se rend compte que peut-être qu'il vaut mieux taper tôt et taper fort, et peut-être un peu au début dans la durée, pour être sûr que ça, qu'il n'y ait pas cet effet accordéon. Ça, c'est la première chose aussi, je pense, dans cette stratégie zéro Covid qui est étudiée. La deuxième chose aussi, c'est la question des zones. En fait, alors évidemment, en Europe et en France, on a aussi ces zones rouges, ces zones oranges, ces zones vertes. Mais finalement, ces zones, elles sont simplement descriptives. On explique là où est-ce qu'on a beaucoup de cas de Covid, peu de cas de Covid, etc. Alors qu'en Australie, si on prend cet exemple-là et la stratégie zéro Covid qui va avec, en fait, on considère qu'on ne peut circuler que dans les zones vertes quand un taux de transmission au sein d'une zone verte est proche de zéro. Et donc, on peut revenir à la normale. Mais avant, quand on est en zone rouge ou quand on est en zone orange, il y a des règles qui s'appliquent. Qui interdisent notamment les mouvements de personnes entre les zones vertes et les zones rouges et les zones oranges, mais qui même au sein des zones rouges et des zones oranges ne permettent pas la circulation. Et donc cette idée d'avoir vraiment des zones, je prends un exemple, en France, on a quand même très peu vu une région ou un département qui s'est confiné à un point qui avait plus de déplacements avec d'autres régions et d'autres départements.
Alors on en a beaucoup parlé aussi en France, hein, pour la Moselle par exemple. C'est vrai qu'on peut même se dire que si la Moselle avait été en Australie, la Moselle aurait été déjà reconfinée.
Oui, on en a parlé effectivement, Christophe, de la Moselle, mais on ne l'a pas fait, en fait. Et c'est ça aussi qu'on étudie. C'est pour répondre aussi à votre question, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas capable, je ne parle même pas de déplacement entre pays, hein, moi je ne crois pas, pour être très franc avec vous, l'argument qui est beaucoup avancé, que c'est une île, donc on est plus facilement isolé que. Oui, c'est une île, l'Australie, mais quand on a un confinement dans une ville, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est une île ou pas une île.
Et c'est vrai, quand on compare les villes comme Bordeaux, Lyon ou Marseille, c'est des villes qui ont la taille peut-être de Melbourne ou de Sydney. Et quand on regarde le nombre de cas qu'il y a à Bordeaux ou à Lille, c'est pas du tout le nombre de cas qu'il y a à Melbourne ou encore à Sydney, hein.
Oui, exactement. Alors moi, je peux entendre, et je crois que c'est un débat en Europe, est-ce qu'on peut fermer les frontières, Schengen, etc. Ça, j'entends bien, il y a cette difficulté. Par contre, à l'intérieur d'un pays, encore une fois, le fait de ne pas pouvoir se rendre de Melbourne à Sydney, ou de ne pas pouvoir se rendre de Melbourne simplement dans ce qu'on appelle le Regional Victoria, c'est-à-dire dans l'arrière-pays, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est une île ou pas une île. Et donc, je trouve que c'est pour ça aussi que cet argument, il est un peu faible. Encore une fois, effectivement, le fait d'avoir une position insulaire, ça aide à couper les arrivées de l'international. Et on voit, hein, d'ailleurs en Australie, hein, c'est ça qui est compliqué, c'est gérer le flux de voyageurs qui continue d'arriver et la logistique autour et les transmissions intracommunautaires du fait d'une transmission entre un voyageur qui arrive et un personnel d'un hôtel de quarantaine. Donc ça, évidemment, il y a un débat autour de ça. Par contre, en ce qui concerne le fait d'être une île, ça n'a rien à voir. Quand vous bloquez un territoire, et vous l'avez mentionné, la Moselle, c'est un très bon exemple. Et puis, un dernier élément, hein, puisque la vraie question, c'est de savoir est-ce que ce serait efficace, est-ce que ce serait possible en fait en Europe. Je crois que maintenant, ce qui va être clé dans cette stratégie zéro Covid, c'est qu'elle soit déployée, qu'elle soit appliquée avec la vaccination. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on décide en fait d'adopter cette stratégie zéro Covid quand les chiffres sont déjà beaucoup plus bas en termes de propagation du virus? C'est-à-dire que maintenant, cette stratégie zéro Covid, ben, c'est inutile. En Europe, en France, ça ne marche pas. On a beaucoup trop de cas. Donc c'est à partir de quand, à partir de quand on décide, ben voilà, on a véritablement baisser le nombre de cas, le nombre de propagations, ce qu'on appelle intracommunautaire. Et donc, à partir de ce moment-là, pardon Christophe, on va adopter une stratégie zéro Covid. Mais ça veut dire quelque chose, Christophe. Ça veut dire que non seulement, enfin, ça veut dire que vous allez devoir convaincre votre population que malgré la baisse effective du nombre de cas, c'est à ce moment-là qu'il va falloir taper très fort pour passer encore d'une circulation active à une quasi-non-circulation. Et donc, c'est aussi préparer la population à ça. Et c'est ça, je crois, qui est très important en Europe, c'est d'expliquer que le vaccin, en fait, c'est pas ça qui va permettre la stratégie zéro Covid, c'est de pouvoir taper très fort une fois qu'on aura déjà diminué la propagation du virus sur le territoire. Et ça, il y a un vrai travail, je pense, de communication, de pédagogie à faire par rapport à cette stratégie Covid, encore une fois, si c'est ce qui est visé par les politiques et les décideurs en Europe.
Affaire à suivre, Nathanaël.
Affaire à suivre, Christophe.